bibliothèque est en feu. Dans la grande maison de vitres encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Une porte claqua, et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des coqs, des clochers de partout, sous l'éclatant de giboulée. Madame X établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières communions se célébrèrent aux 100 000 autels de la cathédrale. Les caravanes partirent, et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle. Hérité peut être tout autant actif que passif, peut s'établir dans la confrontation, parfois contradictoire, de ce qui nous est transmis avec le façonnage de notre identité. Hérité peut nous faire remonter l'histoire très 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 loin. Rimbaud parle de similitude avec ses ancêtres les Gaulois, mais que contrairement à eux, il ne se beurrait pas les cheveux. Hériter implique de ne pas choisir si ce n'est ce que l'on refuse, et parfois sans succès. Mais comme les conditions de notre existence résident dans son passé, que celle-ci s'est tissée sur le canevas de la société qui nous aura vu grandir, il nous faut bien recueillir ou confronter, bon gré, mal gré, nos ascendants, nos ascendantes. C'est à cette bataille que se livrent les personnages de Marie Redonnet, dans le dépouillement et dans l'acharnement. C'est à cette enquête que s'adonne Hervé Guibert avec mes parents. On est en 1986 et Tchernobyl n'a pas encore aboli le temps qui passe. Imbroglio temporel, casse-tête racinaire, affections irrationnelles et pierres tombales. De quoi sommes-nous les héritières ?
Ada et Abel n'ont jamais vu le marais sous la neige. Le marais est tout blanc, le splendide aussi est tout blanc. Les enseignes n'éclairent plus, c'est sûrement à cause de la neige. L'hôtel paraît tout neuf sous la neige. On ne voit plus ses défauts. J'ai déneigé le passage pour que les clients puissent arriver au splendide. Ce n'est pas de chance que les enseignes n'éclairent pas. L'électricien refuse de venir sous prétexte qu'il y a trop de neige. Il y a sûrement des voyageurs qui traversent le marais sans s'apercevoir qu'il y a un hôtel. Le splendide se distingue mal du mari avec cette neige. Il n'y a qu'un seul client à l'hôtel, il n'a pas l'air bien. Quand j'entre dans sa chambre pour déboucher les sanitaires, il me tourne le dos. Il compte faire un séjour prolongé parce qu'il m'a payé d'avance tout le mois. Je lui ai dit de se méfier de l'escalier, les marches sont traites. Il ne risque rien puisqu'il ne quitte pas sa chambre. Il occupe la chambre d'Ada et d'Adèle, Il a insisté, peut-être à cause de la tapisserie à fleurs exotiques. Il paie un supplément pour les deux lits. Je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées. Il n'est pas causant. Il a sûrement choisi de séjourner au Splendide à cause de sa tranquillité. Je n'ai pas grand-chose à faire avec ses sanitaires parce qu'il s'en sert très peu. Ce n'est pas un client qui s'extériorise. Il a l'air indifférent aux problèmes de l'hôtel. Je suis quand même obligée de venir régulièrement dans sa chambre à cause de la fuite. C'est la fuite la plus importante qu'ait connue l'hôtel. J'ai mis beaucoup de mastic sur le tuyau, ça continue de fuir. Le client ne veut pas changer de chambre. Pourtant la fuite est gênante, les autres chambres sont vides. Les sanitaires de la chambre de grand-mère sont en train de se boucher. C'est signe que l'évacuation se fait de plus en plus mal. Ça se généralise, heureusement qu'il neige. Ça étouffe les bruits, même ceux des tuyaux. Le client est peut-être un retraité des chemins de fer. Il veut finir ses jours au calme, près du marais. Au Splendide, il n'a de compte à rendre à personne. Son sang circule mal. Il a dû apprendre que l'eau de l'hôtel a des propriétés particulières et que bénéfice pour la circulation du sang. Il boit beaucoup d'eau. Il paye bien, sans discuter le prix. À condition de faire très attention, je peux vivre avec un seul client. Il me donne le minimum de travail, mon problème c'est toujours le sanitaire. Ça ne s'arrange pas, au contraire ça s'aggrave. J'ai l'angoisse de ne plus parvenir à les déboucher. Je devrais peut-être condamner les sanitaires, c'est une décision difficile et douloureuse à prendre. Quand je pense comme grand-mère était fière de ses sanitaires tout neufs qui plaçaient d'emblée son hôtel dans une des premières catégories. Il va me falloir me résoudre à les condamner. Sinon, il y aura une catastrophe. Qu'est-ce que je ferais si ça se bouchait définitivement ? Ce serait terrible. L'hôtel deviendrait immédiatement inhabitable. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix si je veux que l'hôtel continue à être ouvert. La mort dans l'âme, j'ai rajouté une note sur le tableau dans le hall. Il est interdit de se servir des sanitaires. Les sanitaires risquent de se bouger complètement et définitivement à la moindre utilisation. Il faut utiliser les seaux. J'ai apporté cette note au client pour qu'il en prenne connaissance le premier. Il a lu sans rien dire. Je lui ai apporté deux seaux en même temps que la note. Je lui ai promis que deux fois par jour, matin et soir, j'irai vider ses seaux. Je les viderai au fond du jardin, là où il y avait une cabane. C'est le meilleur endroit où vider les seaux. J'ai baissé de nouveau le prix des chambres. L'hôtel n'a plus du tout le confort. C'est pourtant la seule solution raisonnable, même si elle me coûte. Les clients videront eux-mêmes leurs seaux. J'ai fait une exception pour le pensionnaire, parce qu'il est là en séjour permanent. Mais je n'aurai plus assez de force pour vider tous les seaux. Il y a de plus en plus de neige. Je ne voulais pas le croire, mais maintenant j'en suis sûre. Ce qui reste de la digue est de moins en moins visible. Les parties englouties doivent progressivement attirer dans leur mouvement d'affaissement ce qui reste de la digue en surface. Toute la digue s'affaisse. J'ai eu un faux espoir. La digue va être engloutie comme le cimetière. Les tombes de mes sœurs vont disparaître et leurs beaux cercueils de bois vont prendre l'eau. Ada et Adèle n'échapperont pas aux marées. Elles vont rejoindre grand-mère quelque part dans le fond. Je n'ai pas réussi à éviter à mes sœurs cette fin instable au fond du marais. Elles aussi sont emportées. Rien ne peut résister aux marées. Il a suffi du poids de la neige pour que ce qui reste de la digue disparaisse peu à peu. Il n'y a que le splendide qui résiste aux marées parce que grand-mère a trouvé le bon endroit où le construire. À cet endroit, le marais est comme naturellement asséché. Mais je ne dois pas oublier que le marais est tout de même là, puisqu'il y a la nappe d'eau souterraine. L'hôtel est encerclé de toutes parts, jusqu'aux fondations qui sont attaquées par les infiltrations. L'hôtel a beau pencher un peu, ce n'est pas parce qu'il penche qu'il va tomber. La neige ne fait sûrement pas du bien en bois. Le marais est de moins en moins fréquenté. Les clients sont rares. Ils n'apprécient pas d'aller au fond du jardin enneigé pour vider leurs seaux. Certains s'en vont sans les vider. Je désinfecte tous les seaux. Le pensionnaire semble s'être installé définitivement. Il a ses habitudes. Il a meilleure mine, sûrement que son sang circule mieux. Il faut qu'il soit prudent en ouvrant la fenêtre de sa chambre. Le balcon s'est effondré sous le poids de la neige. Le pensionnaire doit avoir peur de l'escalier. Il ne descend jamais. Il me sait gré de vider ses seaux. Quand on est dans l'hôtel, on sent l'odeur du marais. C'est parce que les poutres ne joignent plus et qu'il y a de l'air qui passe entre les planches. J'essaie de boucher les intersides avec du papier et du chiffon, mais je n'y arrive pas complètement. Alors l'odeur du marais entre dans l'hôtel. Je n'oublie pas de faire mes inhalations pour les bronches. Je n'ai pas à me plaindre du pensionnaire. Il n'a aucune sécurité avec le passage. Le pensionnaire est une... C'est une présence continuelle et revenue régulière. Je ne supporterai pas que l'hôtel soit complètement vide. C'est un événement quand un client arrive. Il se passe parfois des semaines sans qu'il y en ait un. Je lui propose toujours la chambre de grand-mère. C'est trop risqué de monter l'escalier quand on n'a pas l'habitude. Le client de passage a droit à la plus belle chambre. Finalement, je me passe très bien de cette chambre. Je préfère le petit bureau. J'ai toujours des dettes, mais heureusement, elles n'augmentent pas. La neige ne fond pas à cause du froid. Les enseignes éclairent de nouveau, mais seulement à moitié. Je ne les allume que le soir. Quand la nuit tombe et que j'allume, un seul mot est éclairé, le premier, splendide. Ce mot se détache sur le ciel. Les voyageurs ne peuvent pas ne le voir. Mais comme le mot hôtel n'est pas éclairé, les voyageurs ne peuvent pas savoir que le splendide est un hôtel. C'est ce qui explique que les clients soient de plus en plus rares. Il me reste le pensionnaire. Il n'a pas envie de partir. Le soir, je me mets à la fenêtre. Le splendide se reflète dans la neige avec ses enseignes à moitié éclairées. Les lettres penchent comme l'autel. On pourrait croire qu'on est sur un bateau. De loin, le splendide doit ressembler à un bateau qui aurait échoué là sur la neige avec sa coque de bois à moitié pourrie. Il n'a aucune chance de sombrer puisqu'il est échoué. La digue est engloutie. Grand-mère et mes sœurs appartiennent au marais. Le splendide est ouvert de jour comme de nuit. Les clients y sont toujours les bienvenus. Le passage qui mène à l'hôtel est bien déneigé. Le splendide a une vue unique sur le marais. Le marais est toujours le marais, même sous la neige. Grâce à l'esprit d'entreprise de grand-mère, il est le seul marais de toute la région à avoir un hôtel. Le splendide est visible dans tout le marais. Ses enseignes brillent dans la nuit. Elles sont visibles de très loin. Il y a deux taches de lumière dans le ciel et sur la neige. Ce sont les reflets des enseignes du splendide.
Par nos mères et nos aïeuls, nous héritons de la violence que les hommes, pendant des millénaires, ont exercée sur les femmes exploitées, opprimées, dominées, aliénées dans leur imaginaire, leur sexualité et leurs désirs, exclues du symbolique et du politique, n'ayant pour la plupart d'issue hors de la soumission et de la ruse que la folie, la déviance ou la perte. Nous héritons d'un livre blanc. C'est un extrait d'un ouvrage beaucoup plus récent de Marie Redonnet, la première lecture que vous avez pu entendre. C'est un extrait, enfin c'est les dernières pages d'un ouvrage qui date de 1986 qui s'appelle Splendide Hôtel, qui fait référence à un extrait du poème que je vous ai lu dans le début de cette émission, qui est le poème d'ouverture de Illumination d'Arthur Rimbaud, qui s'appelle « Après le déluge ». Autant dire que le Splendid Hôtel, il a une charge symbolique d'emblée assez forte. Et on est à l'intérieur des livres de Marie Redonnet dans ce qu'elle-même nomme une expérience particulière. Elle dit « Il faut faire une expérience intérieure pour rentrer dans l'univers que je propose ». Et en effet, on a à l'intérieur, c'est vrai pour les trois ouvrages qui ont été compilés par les éditions du Tripode, sous le titre « Héritière », ce qui a justifié le titre de cette émission. C'est vrai pour ces trois ouvrages qu'on est dans une écriture à la première personne, avec un jeu qui est le jeu d'une narratrice, qui pourtant se noie tout entier dans les autres, dans les personnes qui l'entourent, qui en général font partie de sa famille, de sang ou rapporté, et dont la parole asphyxie la narratrice. Dans le cas du Splendid Hôtel, on est dans une posture de soin pour ses sœurs qui habitent avec elle, avec cette narratrice, et pour l'hôtel que leur grand-mère leur a légué. Donc, il y a une espèce de confusion entre un héritage patrimonial, qui va être un sujet qu'on va traiter en particulier un peu plus tard dans l'émission, et un héritage affectif et culturel qui les rejoint et qui les fait se rejoindre toutes les trois. En fait, elles habitent à l'intérieur du Splendid Hôtel, à l'intérieur de leur propre névrose. La narratrice, dont on connaîtra jamais le nom, qui va être donc, on l'a compris avec les dernières pages, la seule survivante du Splendid Hôtel, qui est un hôtel qui est bâti sur le marais, et qui va se faire totalement engloutir par le marais. Donc la narratrice, qui est la seule survivante, elle est dans une forme d'acharnement. Acharnement que revendique l'écrivaine Marie Redonnet, puisqu'elle dit que c'est un des traits de caractère qui peut la définir. Il y a un acharnement dont on peut se demander si c'est pas la marque, ou en tout cas l'hypothèse que propose Marie Redonnet, d'efforts qu'il faudrait fournir pour pouvoir précisément s'arracher à son destin, avec tous les guillemets que ça peut impliquer, ou en tout cas à l'héritage trop lourd qu'il faudrait porter pendant son existence et qui mettrait en péril juste le présent. Et donc, pendant les un peu plus de 100 pages du Splendid Hôtel, l'héritière, la première de la trilogie et puis la première de sa fratrie de sœurs, tente de faire taire le doute qu'elle a du bien fondé de cet hôtel. Bien fondé, c'est-à-dire pourquoi il y a un hôtel là sur le marais qui ne tient pas, qui se fait attaquer par l'humidité, par les moustiques, par la neige, par l'obscurité, par le manque de fréquentation. Elle tente de faire taire son doute par la tâche qui lui incombe, et de nouveau il y a une charge symbolique qui est très très forte. Le lieu hérité, c'est une prison insulaire, c'est un navire qui prend l'eau complètement et que la narratrice écope sans discontinuer et à peu près à tout jamais. Donc l'existence des trois sœurs dans le Splendid Hôtel, elle n'advient jamais vraiment complètement, tant leur présent peine à surpasser le passé que leur a légué leur grand-mère. Il en faut un, il en faut deux, il en faut... Nul ne possède assez d'ubiquité pour être seul son contemporain souverain.
Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui aller. Je suis entrée comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours et tous les jours, je vous ai attendu.
Visite aux parents. Je m'étais engagée le mois dernier. Une après-midi de vaine allégresse et j'avais décidé, malgré l'appréhension, les fièvres, l'angoisse, de ne pas me rétracter au dernier moment. Je rentre profondément atteint, ébranlé par cet échantillon de misère humaine. Il vaudrait sans doute mieux voir une chair putréfiée encore à demi-vivante sur un lit d'hôpital. Cela ferait moins pitié. Tout ce qu'il y a de plus affreux en moi-même, de plus petit me semble hériter d'eux. L'exaspérante et louche vitalité de ma mère, malgré ses deux seins rognés et que seule la mort pourra faire taire. La laideur et la mesquinerie dans lesquelles ils ont engagé leur vie. Non seulement je les hais, eux, et ma propre haine, mais je hais ce qu'ils regardent et ce qu'ils mangent. Je hais les sièges où ils s'assoient et les vêtements qui recouvrent leur corps. Je hais leur appartement, je hais leur lecture, je hais leur peur. Et j'écris ces choses si effroyables en écoutant une musique si gaie comme l'eau qui coule sur une surface huilée. Je hais leur mobilier, je hais leur nourriture congelée. Ils viennent me chercher à la gare, au café, mon père ramasse des sucres dans les soucoupes et les met dans ses poches pour le chien qu'il verra le lendemain au restaurant. Le sucre est disposé dans un ancien pot de confiture. Les corbeilles à papier sont faites de bouteilles d'eau en plastique coupé au milieu. Ma mère s'accroupit dans un placard pour me montrer, dans une boîte, un nouveau service de vaisselle qu'ils ont acheté. Elle ne me montre pas le magot de diamants, d'émeraudes, de rubis et de lingots d'or qui doit être caché dans un espace miséreux. Elle me montre, par la fenêtre, une étendue sinistre, boueuse, avec des pylônes électriques, la proximité de la route nationale, des immeubles comme des cages à rats, et elle me dit « Tu vois, c'est bien, on n'a pas de vis-à-vis. » Mon père gare la voiture le soir sous leur fenêtre, parce qu'une nuit, on lui a volé son essence. Ma mère ne dort plus que d'un œil pour guetter les voleurs. Elle voit des enfants jouer au ballon sur le terrain vague et elle dit d'un air méchant à mon père « Un jour, ils casseront les vitres de la voiture. » Je suis presque heureux quand elle dit qu'elle souffre. Je suis presque heureux quand je vois l'horrible roseur de sa peau boursouflée, son gros derrière dans son pantalon moulé. J'ai tant souffert moi-même toute la nuit dans mon insomnie. J'ai rêvé que je leur lançais des invectives à l'un puis à l'autre. Je me tordais de douleur et j'avais peur de crier. J'étais prêt à me mettre un morceau de drap dans la bouche pour m'empêcher de tousser car je sentais mon père rôder derrière ma porte pour me proposer une couverture. Il se présente à moi en robe de chambre, en nylon matelassé. Louise m'a fait leur apporter un échantillon de boîtes de pâté à teneur diverse en foie gras, et ma mère a choisi pour notre repas la boîte la plus dégarnie. À l'aller dans le train, suintant d'appréhension, je me contentais de faire revenir en moi, malgré moi, car ils revenaient tout seuls, certains de leurs mensonges et de leur bassesse oubliée. Au retour, je ne porte que le regret de cette visite, qui n'a fait que leur tendre le reflet de leur désolation et accroître ma hargne et ajouter ces quelques pages mauvaises à mon journal. Je rentre avec la certitude de ne plus devoir les revoir que sur leur lit de mort, mais peut-être mourrai-je avant eux.
Le vent qui roule un cœur sur le pavé des cours. Un ange qui sanglote, accroché dans un arbre. La colonne d'azur qu'entortille le marbre. Font ouvrir dans ma nuit des portes de secours. Un pauvre oiseau qui meurt et le goût de la cendre. Le souvenir d'un œil endormi sur le mur. Et ce point douloureux qui menace l'azur. Font au creux de ma main ton visage descendre. Ton visage est plus dur et plus léger qu'un masque. Il est plus lourd à ma main qu'au doigt du Rosseller. Le joyau qui l'empoche, il est noyé de pleurs. Il est sombre et féroce, un bouquet vert le casque. Ton visage est sévère, il est d'un pâtre grec. Il reste frémissant au creux de mes mains closes. Ta bouche est d'une morte où tes yeux sont des roses. Et ton nez d'un archange et peut-être le bec. Le gel étincelant d'une pudeur méchante qui poudrait tes cheveux de clair astre d'acier. Qui couronnait ton front d'épines du rosier. Quel omal l'a fondu si ton visage chante. Dis-moi quel malheur fou fait éclater ton œil. D'un désespoir si haut que la douleur farouche affolée en personne orne ta ronde bouche. Malgré tes pleurs glacées d'un sourire de deuil. Ne chante pas ce soir les costauds de la lune. Gamin d'or, sois plutôt princesse d'une tour. Rêvant mélancolique à notre pauvre amour. Où soit le mousse blond qui veille à la grand-une. Il descend vers le soir pour chanter sur le pont. Parmi les matelots à genoux et une tête. L'Ave Marie Stella, chaque marin tient prête. Sa verge qui bondit dans sa main de fripon. De fripon, de fripon, de fripon. Sa verge qui bondit dans sa main de fripon.
Et c'est pourtant manché, beau mousse d'aventure. Qu'ils bandent sous leur froc, les matelots musclés. Mon amour, voleras-tu les clés. qui m'ouvriront le ciel où tremble la mature. D'où tu sèmes royal les blancs enchantements qui neigent sur mon page en ma prison muette. L'épouvante, les morts dans les fleurs de violette. La mort avec ses coques, ses fantômes d'amants. Sur ses pieds de velours passe un garde qui rôde. Repose en mes yeux creux le souvenir de toi. Il se peut qu'on s'évade en passant par le toit. On dit que la Guyane est une terre chaude. Oh la douceur du bagne, impossible et lointain. Oh le ciel de la belle, oh la mer et les palmes. Les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes. Oh les cheveux tendus et les peaux de satin. Rêvons ensemble amour à quelques durs amants. Grand comme l'univers, mais le corps taché d'ombre. Il nous bouclera nu dans ses auberges sombres. Entre ses cuisses d'or, sur son ventre fumant. Un mac éblouissant, taillé dans un archange. Pendant sur les bouquets d'œillets et de jasmin. Le porteront tremblant tes lumineuses mains sur son auguste flanc. Que ton baiser dérange. Tristesse dans ma bouche, amertume gonflant, gonflant. Mon pauvre cœur, mes amours parfumés. Adieu vont s'en aller, adieu couilles aimées. Ou sur ma voix coupée, adieu chibre insolent. Gamin, ne chantez pas, posez votre air d'apache. Soyez la jeune fille, au pur courageux. Ou si tu n'as de peur, l'enfant mélodieux. Mort en moi, bien avant que me tranche la hache.
Ça fait quoi de devenir Christine Guibert quand on est amoureuse de Thierry et qui est là comme témoin derrière ?
Ça fait rien de précis, hein. C'est la continuité de ce qu'on avait commencé. Au début, on se rend pas compte. C'est surtout après sa mort que tout d'un coup, je devais prendre le nom de Guibert, alors qu'avant, j'avais gardé mon nom de jeune fille. Donc c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment devenue la veuve Guibert.
Et pour vous, c'était cohérent d'épouser Hervé dans votre parcours, dans votre histoire à trois ?
Au début, moi, je ne voulais pas. Hein. C'est Thierry qui a insisté parce qu'il y avait cette menace, effectivement, de maladie. Hervé se savait déjà malade et voulait absolument nous protéger par le biais du mariage. C'était une mission un petit peu bizarre hein, qui m'est tombée dessus comme ça, dans la mesure où il avait effectivement tout à fait prévu sa mort, comme tout le monde le sait. Il avait fait un testament littéraire très précis, mais il n'avait pas prévu la mort de Thierry, qui était peut-être le plus proche pour bien connaître et son travail, aussi bien littéraire que photographique.
Marie Redonnet, dont vous avez entendu un extrait du Splendid Hôtel tout à l'heure, a écrit sa thèse avant de démarrer sa carrière de professeur de littérature et d'écrivaine, a démarré par une thèse sur Jean Genet, dont vous avez pu entendre les mots dans Le Condamné à mort, qui a été chanté par les Chevals Hongrois. Jean Genet, c'est aussi quelqu'un qui a été une figure très importante et un compagnon littéraire pour Hervé Guibert. Et si vous avez jamais entendu la littérature d'Hervé Guibert, vous venez d'en entendre un extrait dans un livre qui s'appelle « Mes parents », qui n'est pas le plus connu d'Hervé Guibert et qui date lui aussi de 1986. On parle de l'héritage et des héritières aujourd'hui, et 1986, c'est aussi mon année de naissance. Donc ça m'avait un peu fait rigoler. Et Hervé Guibert, il fait dans Mes parents un récit de vie assez étrange, fragmenté, où il espère, par une espèce d'entourloupe fictionnelle, nous tenir en haleine sur un espèce de faux suspense, où soi-disant, au cours du livre, on devrait découvrir un scandale, le trésor caché ou le fameux héritage caché, le secret de famille que personne n'a dévoilé et qu'il sera le premier à trahir. En fait, on découvre pas vraiment ça, on découvre plutôt l'enfance, l'adolescence, la vie de jeune adulte d'Hervé auprès de ses parents, entre ses deux parents, et parce que sa sœur part très vite. Parce qu'elle tombe enceinte, de nouveau, c'est un peu les événements, les forces de nécessité absolue de la vie qui vont façonner l'histoire d'une famille. Et en fait, on découvre rien d'à peu près scandaleux, si ce n'est la violence dont lui peut être victime, ou en tout cas qu'il peut subir en tant qu'enfant, et ensuite comme adolescent homosexuel entre ses deux parents, très normatif et très normé. Et ensuite, la violence dont lui-même est l'acteur et que vous avez pu davantage entendre dans l'extrait qui vient d'être lu. Mes parents, c'est un livre qui est dédicacé à personne. Et en effet, on a l'impression que, au travers de cet ouvrage, au travers d'autres moments aussi de l'œuvre d'Hervé Guibert, parce qu'il est photographe, donc il a aussi tout un travail au travers de l'image Travail qu'il effectue beaucoup avec Louise et Suzanne, ses deux grand-tantes qui ont une place très importante dans son parcours. On a l'impression qu'il cherche, en allant rechercher le moindre détail et en menant cette espèce d'enquête, à se défaire des liens qui le retiennent à sa famille et liens qui lui apparaissent surnaturels, au sens de ne correspondant pas du tout à l'identité que lui s'est choisie, mais aussi à l'identité qu'il a l'impression d'incarner sans l'avoir spécialement choisi. Donc voilà, dans la poursuite de cette émission où on s'interroge de quoi nous sommes les héritiers et les héritières, il y a eu avec Marie Redonnet l'aspect symbolique, mais en fait à l'œuvre de manière véritable, concrète, pratique, d'un mélange entre l'héritage patrimonial, l'héritage culturel et l'héritage affectif, avec l'édification sur parfois plusieurs générations d'un édifice symbolique qui peut ressembler à une prison dans la mesure où qu'est-ce que ça vient transmettre et donc qu'est-ce que ça vient transmettre comme héritage qui sont cachés dans la mesure où ils ne sont pas discibles ou pas compréhensibles. Avec Hervé Guibert, on est dans un espèce de mouvement qui assume ce même mélange, cette même osmose entre les différents types d'héritage, sauf que lui, il est d'une manière acharnée, farouche, en tout cas très violente. Il est en action lui aussi pour tenter de s'en défaire. Vous avez pu entendre tout à l'heure un extrait d'un poème de Prévert qui s'appelle « Dans ma maison », que j'avais tenu à mettre à l'intérieur de l'émission parce que ce soit chez Guibert, que ça soit chez Marie Redonnet, le lieu, l'espace, et que ça soit chez René Char, dont vous avez pu entendre un extrait aussi tout à l'heure, le lieu et le lieu de la maison et la constitution de la maison, c'est un espace évidemment pivot, soit dans le manque, soit dans l'omniprésence. C'est le lieu d'un héritage et c'est là où il se met en place.
C'est toujours un peu, il est toujours un peu drôle le moment où on constate les différences de ressources économiques. Et il y a plusieurs, je trouve qu'il y a un peu plusieurs manières. Par exemple, ça peut être un peu avec ses camarades de s'apercevoir qu'en fait, on passe pas le même type de vacances. Alors, ça peut être un peu, bon, bah, pour ceux qui sont dans une extrême dèche, voilà. Bon, je préviens tout de suite que je vais utiliser pas mal de termes d'argot, donc voilà, pour ceux qui ont des oreilles un peu sensibles, ça va être dur pour eux. Donc voilà, il y en a qui partagent des espaces communs dans des squats d'habitation où tout le monde est censé, comment dire, être réuni pour une lutte contre le capital, et on sous-entend immédiatement que donc c'est des personnes qui sont dans une précarité plus ou moins égale, voire égalitaire. Et du coup, bah, y en a qui font quand même des petites vacances plutôt michetons de 2-3 mois dans des pays du Sud ou de 4-5-6 mois en Inde. Et en fait, on ne sait pas trop ce qui a payé ce voyage. Donc, d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui partent en vacances, hein, donc qui partent en vacances sous-entendu et travaillent le reste du temps. Ou alors qui n'ont pas de travail salarié, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'activités. Et donc, ce truc-là des vacances, c'est super important pour pouvoir se détendre. Hein. Je ne vais pas expliquer l'intérêt des vacances. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour organiser ces quelques jours, ces quelques semaines, pour se tirer au soleil et tout. Ce n'est pas forcément tout le monde qui peut le faire, qui peut choisir avec ses potes. Et donc, des fois, en comparant juste le truc des vacances, ça peut être marrant. Ça, c'est pour le truc sympa.
Ben moi, je crois que je l'ai découvert plus ou moins à chaque fois par hasard, et j'ai fini par me rendre compte que c'est presque général. C'est que c'est en constatant le nombre de personnes qui héritaient d'appartements, enfin, ou qui avaient un héritage et qui, par conséquent, pouvaient acquérir un logement. Et voilà. Et en fait, je le découvrais. je le découvrais au fur et à mesure. Et voilà. Et puis parfois aussi en découvrant comme ça certains aspects de la vie qui sont assez bourgeois, c'est-à-dire voilà, acheter des très bons produits, voilà, des bons vins, voilà, aller chez le producteur, on connaît le fromager qui fait des bons fromages, on connaît voilà, celui qui vend des bons vins, voilà, ce genre de. Bah, c'est encore plus que, par exemple, de manger bio, par exemple, c'est mon cas, mais c'est vraiment d'aller à chaque fois chercher le meilleur produit. Et ça aussi je l'ai découvert chez certaines et certains et voilà, pas du tout un même rapport à certains produits de consommation, quoi.
Moi, plutôt, les premières fois, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, les vacances et aussi sur les questions de logement. Moi, je l'ai découvert dans des moments où, jusqu'à quelques années, je pense, j'étais encore très naïve de « oui, il y a la possibilité d'être égal ou égaux ». Je pense que j'étais encore dans le monde des bisounours ou que je me voilais la face. C'était sur un espace de lutte où des personnes sans papier sont expulsées d'un squat et d'autres personnes, donc plutôt privilégiées, qui vont faire la morale sur les décisions qui sont prises, pour quelle stratégie on opte, ou qui vont carrément quitter la lutte parce que ils estiment que de bons choix n'ont pas été faits. Et quelques mois au détour de conversation, quelques mois après, on découvre que c'est facile de faire la leçon de morale quand t'as tes parents qui te filent 600 euros par mois sans jamais avoir à travailler et que tu peux faire tes études tranquillement ou faire la morale sur ces questions-là. Et on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais moi, c'est comment aussi est-ce que c'est caché ou tabou à certains moments.
Tout à fait.
Mais en tout cas, quand je le découvre, maintenant ça s'assume un peu plus. Enfin, il y a des personnes qui arrivent et qui posent direct les cartes sur les tables. Mais quand je l'ai découvert, c'était plutôt caché et plutôt sur ce truc de on va vous dire comment il faut fonctionner. Et c'est des surprises après de découvrir comment les gens peuvent vivre matériellement à côté.
Oui, moi c'est pareil, ce sentiment que les gens cachent quelque chose. Et qu'en fait, on découvre d'un coup qu'ils ont de l'argent ou du patrimoine qui les met dans une sécurité plus que relative. Et du coup, effectivement, il y a de plus en plus un mouvement qui fait que les gens ont tendance à se situer et à plus annoncer tout de suite la couleur du pognon. Mais moi, le plus souvent, ce que j'ai constaté sur les 20 dernières années, c'est vraiment... on apprend ça par accident, par hasard, alors de quelqu'un d'un collectif extérieur ou d'une maison, d'un autre squat un peu plus loin, ou une relation commune. Ah, tu savais pas, en fait, un tel, il attend sur son compte épargne. Ah, tu savais pas, en fait, un tel, ses parents, en fait, c'est des aristos. Ah, tu savais pas. Et en fait, non, je savais pas, mais en fait, personne dans la maison ne savait non plus. Et du coup, ça fait un peu des petites surprises quand on repense à toutes les dépenses qui doivent s'effectuer en commun, à tout ce que, voilà, comme tu disais, Fatou, les leçons de morale sur comment dépenser son argent, on y reviendra plus tard, mais pourquoi on décide de travailler, pourquoi on décide pas de travailler, comme si c'était un choix, machin, la lutte contre le capital. On se découvre que les personnes qui parlaient souvent beaucoup, beaucoup, en fait, ont aussi beaucoup, beaucoup de pognon.
Salut, camarade héritière. Vous avez entendu un extrait d'une émission qui a été diffusée sur Radio Galère en janvier 2018 dans l'émission Libre Pensée. Je vous encourage à l'écouter
Libre
en
débat.
Entier. Libre débat, me dit-on à l'antenne. Je vous encourage à l'écouter en entier, elle est très intéressante. Et comme annoncé au début de cette émission sur Radio Galère, c'est une émission qui prenait part à l'intérieur d'un travail qui a été entamé par le collectif du journal Panthère Première pour leur deuxième numéro, depuis il en a paru un nouveau. Leur dossier était consacré à l'héritage et notamment au patrimoine. Elles ont abordé différents aspects de l'héritage. Il y a un très bon abécédaire à la fin de ce dossier et il y a une recension de cette émission. À l'intérieur de cette émission, moi je trouve qu'elle résume les invités, elle résume extrêmement bien tous les enjeux qu'on vient chercher, qu'on vient trouver quand on parle d'héritage. La question du nom et du nom du père, donc la charge symbolique. La question de l'argent. C'est fou qu'on arrive à quasiment trois quarts d'heure d'émission sur l'héritage et qu'on n'ait pas encore parlé d'argent. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc, à partir de l'argent, la question des inégalités sociales qui se déploient. Donc, une économie cachée de la parenté, comme dit dans Panthère Première, c'est-à-dire qu'est-ce qui est capable de nous fournir comme forme d'aide, et en l'occurrence comme forme d'aide matérielle, notre famille ou la famille à l'intérieur de laquelle on a grandi. La question de la famille, donc, avec toutes ces charges affectives, ces héritages de secrets, ces galères à se traîner sur des générations et des générations parfois, et dans, de nouveau, les inégalités sociales que ça peut recouvrir, est-ce que c'est les ascendants qui vont s'occuper de leurs descendants, ou l'inverse, est-ce que c'est les enfants qui vont s'occuper de leurs parents, parce que déjà, c'est la galère, alors qu'on n'est même pas encore mort. Et au bout du bout, qui a été relevé encore une fois dans l'extrait de cette émission, il y a la notion du travail. C'est que pour pallier à toutes ces inégalités qu'on vient de relever et qui sont liées à l'argent, est-ce qu'il nous faut travailler ou non? Quelle forme de liberté on est en train de se fabriquer dans notre vie? Et quelle forme de liberté on est en train de se fabriquer si on accepte, si on refuse, si on parvient à accepter ou refuser l'héritage qui nous est fait. Il y avait une citation dans les feuillets d'hypnose, toujours de notre très cher René Char, qui disait « Notre héritage ne sera précédé d'aucun testament ». C'est une citation qui a souvent été reprise et relevée par des camarades, dans bien des contextes, des fly, des fanzines, que sais-je. Je crois que un des points que je voulais soulever à l'intérieur de cette émission sur les héritières et sur les héritiers, c'est que même s'il n'y a pas de testament, parfois l'héritage peut peser lourd, et que même s'il n'y a pas de testament, ou qu'en tout cas l'existence du présent a choisi un chemin qui se détourne de l'existence du passé, on ne peut pas, je crois, séparer les héritages. Il est difficile de recueillir les biens matériels sans recueillir les biens affectifs, symboliques ou culturels. Dans le mouvement des gilets jaunes, on trouvait ça plutôt cohérent de vous mettre pendant que les champs brûlent. Et cette émission est concoctée pour le prince des ragots, qui emporte le nom visiteur de cabanes qui d'ailleurs ne sont jamais les miennes. Rendez-vous est donné 2 minutes avant la nouvelle année ou 2 jours après sur le bord du lac de ce qui n'est pas vrai, pour se dire merci de continuer la route. C'est l'anniversaire de Moufid. Joyeux anniversaire, Vincent. La bibliothèque est en feu numéro 8. Nous étions les héritières de quelque chose et un de ces jours nous serons des sorcières. Vous avez pu entendre un extrait de Splendide Hôtel, le premier ouvrage de la trilogie héritière de Marie Redonnet, édité au Tripode. Vous avez pu entendre un extrait de Mes parents d'Hervé Guibert. Et parmi les morceaux de musique que vous avez pu entendre, il y avait Petra Piedbich qui nous disait qu'on hérite aussi d'un grand savoir-faire de Boniche. Il y avait Les Chevals Hongrois qui chantaient Jean Genet, sujet de thèse et d'interrogation de Marie Redonnet. Il y avait un extrait de Après le déluge d'Arthur Rimbaud, un extrait de Dans ma maison de Prévert et un extrait de René Char qui est toujours si inspirant. Vous avez pu entendre toutes ces lectures aujourd'hui qui étaient magistralement lues par
Romane
et
Renaud.
Merci beaucoup. N'oublions pas, demain soir, quelque part sur le plateau, tenez-vous au courant, essayez de vous informer, il y aura une assemblée pour savoir de quelle manière nous prenons part dans le grand mouvement social qui fait brûler les champs.